RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC et RMC Story, comme tous les jours, de 9h à midi, pour discuter, pour débattre, pour argumenter avec nos GG. C'est l'heure des Grandes Gueules. On vous attend au 32-16, donc comme je vous le disais, parce que l'actualité ne s'arrête pas, les GG non plus. Nous sommes là au cœur de l'été, on sera là lundi 15 août. Aujourd'hui dans les GG, Thomas Porcher de retour de vacances, notre professeur d'économie. Bonjour.
Bonjour à tous.
En forme Thomas ?
En forme.
T'as passé de bonnes vacances ?
Ouais, très bonnes vacances.
Tu t'es reposé ? On peut te demander où tu es allé ? Tu t'es baladé ?
J'ai été à Marseille et j'ai été à La Palmyre. Donc très sympa, je suis resté en France, très très sympa.
Nous sommes avec Joël Dagosséry, coach de vie, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour ma chère Joël. Et puis nous sommes avec Étienne Liebix. Alors bonjour Étienne.
Bonjour à tous.
Tes cheveux ont poussé, de manière phénoménale en une nuit.
Voilà, et, la réalité c'est que je veux faire comme David Dickens, j'essaye de me relooker en permanence pour essayer de me tenir à niveau, c'est autant oui. sur le plan de la séduction. Que sur le plan du niveau.
Alors, pour ceux qui ne sont pas devant RMC Story, Étienne, qui est normalement dégarni.
Totalement hein, chaud.
Totalement chaud. Là, affiche des boucles brunes, mais somptueuses, superbes.
Absolument.
Et c'est naturel en plus.
Ah, mais tout à fait naturel.
C'est là où la nature, quand même.
C'est incroyable.
La force de l'humain peut réserver des surprises. Quoi. Je vous conseille de retrouver sur les réseaux sociaux, justement, la magnifique chevelure d'Étienne Liebig. Bon. Cela dit, de quoi va-t-il être question dans les GG, dans les Grandes Gueules, aujourd'hui, à 11h. On aura un GG 7 et match autour de ce maire de l'Ain qui veut couper l'eau, qui a coupé l'eau de son village pour lutter contre la sécheresse entre 8h30 et 11h, entre 14h et 19h. Il estime que quand il y a une situation radicale, il faut prendre des mesures radicales. Une partie des habitants le comprennent, d'autres non. Ici, dans les Grandes Gueules, le débat est là et on en parlera avec vous à 11h. À 10h, on reviendra aussi sur cet arrêté du journal officiel. On pourra recruter sans formation dans les crèches. Ça fait 2-3 jours maintenant qu'il y a la polémique autour de cette disposition. Oui, mais on manque de personnel dans les crèches. Donc, à un moment, il faut réagir. Et donc, est-ce que recruter des gens sans formation, à qui on va donner 120 heures sur le tas, en fait, sur le terrain, auprès de la petite enfance, est-ce que c'est suffisant ? Ou inquiétant, 10 heures pour en parler avec les GG. Notre premier sujet de discussion va nous emmener sur le terrain des incendies avec ces pompiers allemands, polonais, autrichiens, roumains qui vont venir nous aider. Alors, le président se félicite de la solidarité européenne, mais est-ce que la France aujourd'hui, c'est un aveu d'impuissance et d'échec dans nos moyens ? Est-ce qu'on est à la ramasse du coup ? 32-16 pour en parler avec les GG.
Nous sommes tous pompiers et nous comprenons votre situation. C'est une très grande surface qui est affectée. Pour nous, c'était une évidence que de proposer notre aide. Et dès que la France a accepté, nous avons commencé les préparatifs pour venir au plus vite et vous aider du mieux possible.
C'est le commandant Fritz qui vient de parler, qui était sur place à Landiras hier. Donc je vous disais, 361 pompiers européens. Des Allemands, vous venez les entendre, des Polonais, des Autrichiens, des Roumains, des Canadiens, Italiens, Grecs et Suédois vont venir nous épauler pour lutter contre le feu de Landiras. Alors, ces arrivées vont se faire au fil des heures et des jours. C'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Alors, en même temps, on est dans une situation, bien sûr, inédite. Mais regardez comment ça s'est inversé. Ces dernières années, c'est la France qui allait aider les voisins européens. Là, ce sont les voisins européens qui viennent nous aider. C'est la solidarité, c'est féliciter le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas aussi un aveu quand même de faiblesse, d'impuissance de notre dispositif qu'on n'a pas su renouveler, que ce soit en homme ou en moyen ? 32-16 pour en parler avec les GG. Thomas Porcher.
C'est vrai que ça fait des années quand même que les pompiers se plaignent du manque de moyens.
Hein, on se souvient de leur manifestation à Paris, tu te souviens ?
Exactement, tout à fait.
Justement réprimée par la police.
Donc on peut pas faire comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Voilà, ça fait des années qu'ils se plaignent du manque de moyens. Et puis après, avec le réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus de situations exceptionnelles comme celle-là. Et pour y répondre, il va falloir justement avoir des dispositifs. Alors, il y a deux façons d'y répondre. Il y a de faire en sorte de ralentir en fait cette progression parce que cette progression des températures, parce que là, il faut rappeler là que quand on regarde sur toutes les études du GIEC, on est à 1 plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On espère ne pas dépasser les 2 degrés. Vous voyez, à 1 plus 1, déjà, ce qu'on a comme conséquence en termes de feu, etc. Qu'est-ce que ce sera à 1,3, à 1,4, à 1,5 degrés, à 1,6? Ce sera probablement beaucoup plus important. Et donc là, il faut pouvoir y répondre. Et comment on y répond? Ben, il faut qu'il y ait des moyens pour justement les pompiers, mais d'autres, services publics qui doivent répondre à ce type de catastrophe. Et puis, il faut faire en sorte de ralentir cette progression des températures. Donc, il faut agir sur le court terme, mais aussi il faut
donc,
avoir
une marge. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas su anticiper. On n'a pas tenu compte des signaux d'alarme.
Regardez ce qu'a dit la première ministre. On avait une flotte d'hélicoptères bombardiers de 2 seulement pour un pays comme la France. Vous voyez, c'est alors à un moment il va falloir que on puisse avoir
donc
de quoi répondre.
On est quand même un peu à la ramasse.
Ces situations sont exceptionnelles, mais elles vont arriver de plus en plus. Et donc il faut maintenant avoir de quoi à répondre à ces situations exceptionnelles. C'est ça.
Joël Dagosséry.
Alors, on a la ramasse, oui, parce qu'on va pas se mentir, comme l'a dit Thomas, on manque de moyens depuis très longtemps. Après, j'ai pas envie vraiment de faire de polémique en disant, bah, on a la ramasse, ils viennent nous aider. Enfin, je trouve que c'est déjà un juste retour puisque nous aidions, nos voisins. Et donc, je trouve ça plutôt bien. Si on est dans l'Europe, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour quand il y a des situations aussi exceptionnelles qu'on puisse se soutenir. Donc, vraiment, je trouve cela positif parce qu'on est dans l'urgence aujourd'hui. On va pas, c'est pas le moment de régler les comptes. Ceci dit, ce qui me fait peur un peu avec notre pays, c'est qu'une fois septembre arrivé, l'automne arrivé, et puis l'hiver, terminé.
Qu'on oublie en fait.
Je pense que c'est terminé.
Qu'on tourne la page.
Mais parce qu'on reste dans une logique.
Que, malgré la gravité de ce qui est en train de se passer, tu penses?
Parce que on reste dans une logique de pays tempéré en fait. Et tant que dans notre tête, on reste dans cette logique-là, tout va bien. Il fait chaud en été, il fait froid en hiver. Bon, voilà, c'est tout. Donc je crois que c'est un peu. Je crois que là, c'est alarmant. Mais je crois qu'on va vite passer à autre chose en septembre et on n'en saura rien des 9 bombardiers et du reste de pénurie de pompiers, etc. Donc aujourd'hui c'est très bien, demain je sais pas.
Parce que là c'est ponctuel, cette aide des Européens, c'est sur un moment qui nécessite, si tu veux, il y a une urgence d'incendie, une urgence de flamme. On mobilise tous les moyens qu'on peut avoir autour de nous.
Je suis prêt à prendre un pari, d'ailleurs je l'ai mis sur Twitter, je suis prêt à prendre un pari, c'est-à-dire que tous les partis de droite et d'extrême droite qui ont nié absolument le réchauffement climatique, qui ont nié tout changement climatique, qui ont dit que c'était une fantaisie de bobos parisiens à cravate costume. Je suis sûr que dans le mois qui vient, ils vont tous retourner leur veste et qu'ils vont tous nous dire oui, mais nous, en fait, ça fait des années que nous pensons au réchauffement climatique. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est plus important que les partis politiques, c'est l'opinion publique. Les partis politiques et la politique en général, que ce soit Macron ou que ce soit les partis de... Je parle pas de la gauche, parce que finalement la gauche, sur ce sujet-là, est plutôt moins coupable que les autres, parce que elle alerte depuis plus longtemps, surtout les partis qui sont proches de l'écologie. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que l'opinion publique se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et pour l'instant, même les gens qui disait mais non tout ça c'est normal, rappelez-vous il a toujours fait chaud en été, j'ai connu ça en 1922, il y a eu ça, c'est de moins en moins quand même, c'est de moins en moins. Et si l'opinion publique varie, et c'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut absolument se mobiliser et bouger, parce que c'est nous qui tenons les politiques, c'est pas les politiques qui nous tiennent, ils font ce qu'on leur dit de faire en réalité, parce qu'il suffit qu'on fasse de la pression et ils nous suivent. Et moi je dis c'est le moment en ce moment de bouger et de dire on ne veut pas de cette espèce de déni de réalité de ce qui est en train de se passer. Dans tous les pays du monde, il y a des mouvements qui se font comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'ose nier la réalité. Et donc, je pense que les politiques vont bouger. Et peut-être que ce sujet ne va plus être un sujet un peu fantaisiste, qu'on rajoute en disant « ouais, mais c'est de l'écologie punitive ». Ça va devenir un vrai sujet politique. Et à partir de ce moment-là, les choses vont bouger.
Non, mais je crois que tout le monde, maintenant, il y a un consensus, un peu tard, mais je crois qu'il y a un consensus sur ça, mais je crois que c'est sur les moyens que ça change, parce que je pense que la droite, ou peut-être pas l'extrême droite, mais en tout cas, la droite croit plutôt à une avancée technologique qui va nous permettre de sortir de ça.
Recherche et développement.
Voilà, exactement. Et la gauche nous dit.
C'est vrai, en partie aussi.
La gauche, une partie de la gauche nous parle de décroissance, etc. Donc, je pense qu'il doit y avoir peut-être un juste milieu
qu'on a. Il faudra les deux,
je pense. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu qu'on n'a pas encore trouvé. Mais après, vraiment, je t'assure, Étienne, moi, j'ai un doute sur notre capacité à changer complètement nos modes de vie.
Ça dépend de nous.
Vraiment, je t'assure, je suis vraiment honnête avec ça. On fait nos petits efforts, on fait notre...
Oui, mais il y a deux choses.
On fait attention à notre consommation d'énergie, mais une révolution qui permet de revenir en arrière...
Ça vient lentement, des gros changements.
Non, mais regarde. La politique, c'est de l'anticipation et de la prévention. Ouais. Les politiques n'ont pas vu la révolution technologique telle qu'elle est arrivée, en fait, finalement, assez rapidement avec les géants de la tech. Et là, je regardais les rapports. Il y a eu un rapport du Sénat et ce qu'ont dit les pompiers au moment de la revendication... Ils le disaient eux-mêmes en disant il nous faut un nouveau maillage du territoire face à des... Alors, ils ne disaient pas des catastrophes, parce que le pompier, il n'emploie pas le mot catastrophe, mais face à des incidents ou des situations qui risquent d'arriver. Le pompier, il est dans la prévention du risque et dans l'intervention. Or, je relisais ce que disait un rapport et du Sénat et des pompiers, qu'on aurait besoin d'un nouveau maillage territorial au niveau d'intervention. La technique française des incendies, c'était intervention rapide, on prend le feu à sa source, on essaie de l'éteindre rapidement. Ouais. Et les pompiers disaient, il nous faut entre 10 000 et 12 000 hommes. Le mieux, c'est 14 000 hommes installés sur le terrain de manière à surveiller et intervenir. Ils les ont jamais eus.
Bah voilà.
On les a jamais eus.
Voilà.
Et on enlève des agents de l'ONF.
Voilà.
Tu vois.
Exactement.
De surveillance des forêts. Il y a un plan de, je crois, 200 ou 300 suppressions de postes d'ici 2025. Ce qui fait que dans cette situation qui est une situation d'urgence avec des feux dans le Jura, on a eu des feux dans le Morbihan, on n'était pas habitué à les avoir.
Et ce
giga-feu aujourd'hui en Gironde, et je te dis, moi, le Niçois, coup de bol qu'on n'en ait pas dans les Alpes-Maritimes et dans le Var.
Bien sûr.
T'imagines? Et coup de bol que nos voisins européens, même s'il y en a en Italie, il y a le Portugal, mais qu'ils n'en aient pas non plus en Espagne, parce que là, comment on ferait?
On serait mort.
Je veux dire, l'Europe ne pourrait même plus fournir. Donc, on a quand même du retard politique à ce niveau-là, quoi.
Mais ça me fait penser à la situation de l'hôpital avant la pandémie. C'est-à-dire que l'hôpital disait, faites attention, on n'a pas de moyens, s'il y a une situation exceptionnelle, on ne pourra pas y répondre, etc. On a vu ce qui s'est passé, ça a tenu par l'investissement des gens, mais on a très bien vu que notre hôpital a été plié comme d'autres hôpitaux dans le monde par la pandémie. Et là, c'est pareil. Tout a été écrit, tout a été dit. Tu l'as rappelé toi-même. Tout était dit. Ils nous ont prévenus et rien n'a été fait. Et moi, j'ai peur qu'on soit dans la situation que Joël décrit, c'est-à-dire que là, tout le monde dit ouh là là, tout le monde verse des larmes de crocodile en disant attention, tout le monde se rend compte du réchauffement climatique. Puis après, on arrive en octobre, septembre, les budgets sortent, on fait des budgets où attention, faut faire quand même des économies là-dessus. Donc les pompiers n'ont pas leur budget, l'hôpital n'a pas son budget, etc. Et puis les gens reprennent leur vie et on oublie cette situation exceptionnelle, on l'oublie. Et moi, ça qui me fait peur, parce que là, c'est une alarme, là, c'est une très grosse alarme. Tant dans les moyens qu'on doit donner aux pompiers que dans l'alerte des conséquences du réchauffement climatique. Et donc, il faut en tenir compte. J'espère qu'on ne l'oubliera pas.
Dans la gestion des forêts.
Ouais, nous sommes avec Olivier. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Alain, le beau gosse barbu.
On va voir si elle tient, la barbe. Pour le moment, elle est là. Je vous conseille de suivre ça au fil des jours parce que le débat fait.
Moi, je suis pour qu'il la garde.
Fait toujours rage au sein des GG. Alors, Olivier, est-ce qu'on est à la ramasse, là?
Oui, non. Juste parenthèse. Bonjour Joël, Thomas et Étienne.
Bonjour.
C'est la vigie RMC au téléphone. Alors, il faut enfin l'Europe. Il faut arrêter de penser le petit département Gironde dans le petit département français. La France est un département européen. Donc il faut dorénavant, alors j'ai pas dit, je dis pas qu'il faut arrêter d'embaucher des pompiers et d'acheter des camions. Il faut dire la France fait partie du département de l'Europe. Ça veut dire que des trucs comme ça, il faut que ce soit l'Europe qui prenne en main. Donc il y aura tant de pompiers en Grèce, en France, en Italie, en Suède, n'importe. Et là, il faudra penser Europe. Ça veut dire qu'on peut aller en Allemagne, on peut aller en Italie. Donc ça veut dire qu'il faut une gestion générale. Donc peut-être qu'enfin, l'Europe prend un peu de forme. Parce que à part l'argent, l'euro, il n'y a toujours pas d'armée, de police, il n'y a rien du tout. Alors peut-être qu'enfin, on va avoir une Europe pompier.
Ce serait beau.
Mais ce qu'il dit pas Olivier là, c'est que là on a de la chance.
C'est ce qu'on a mis en place avec ce système Rescue.
Ouais. Ouais, mais Alain, tu l'as dit là, la chance que l'on a là, c'est que ça ne se passe qu'en France. Si demain, et c'est possible, ça c'est, toujours avoir les scénarios du pire. Parce que le Covid, c'est ce qui s'est passé, on a tous été frappés en même temps, donc il y a eu des problèmes.
Si c'est plus la municipalité de Bordeaux.
Non, non, bien sûr. Mais si demain il y a l'Italie, l'Italie, la France, l'Espagne qui sont frappés par le même type d'incendie, je suis pas sûr qu'on ait toutes les mains d'œuvre pour y répondre.
D'autant que il faut gérer ça, mais pas au petit département de la Gironde.
D'autant que la part de responsabilité un peu particulière de la France, c'est quand même sa forêt, et notamment la forêt Gironde, qui est 93% privée, entièrement de pin maritime, uniquement destiné à l'ameublement et au papier. Et en fait, on a peu de regard.
On a transformé la forêt.
On a transformé la forêt pour des intérêts, évidemment, c'est logique d'ailleurs, économiques, et ce sont des propriétaires privés, donc il faut bien qu'ils vivent de leur forêt. Et donc, seulement le contrôle de l'État sur ces forêts a diminué énormément. Et donc, en réalité, ce qu'il faut, et Mme Borne l'a dit d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est revoir l'organisation de nos forêts. Et les forêts sont différentes dans d'autres pays. Mais, les forêts italiennes ne sont pas gérées comme les forêts françaises.
Joël, vas-y.
Moi je parle intervention, hein, je parle pas d'entretien.
Oui,
on parle pompier. Après le reste, hein,
y a pas. Oui, mais Olivier, je suis d'accord avec vous.
Non, les radicaux écolos, machin, ça, s'il faut faire du ménage, c'est local. Je parle gestion générale des feux en Europe. Il y a eu le Portugal il y a quelques années. Je crois que les contingents français sont allés là-bas, les Canadiens. Voilà, c'est une entraide. C'est des départements qui font partie de l'Europe nation.
Oui,
donc voilà,
Olivier,
c'est comme si nous on va dans la Creuse aider ceci. Là, on aide pour la paille, le foin. Là, il faut arrêter de penser petit département, région, France. La France est un département de l'Europe. Enfin, on passera le cap de l'Europe.
Alors, oui, Olivier, il y a Joël qui veut réagir.
C'est une entraide, c'est certain, mais il faut quand même des hommes. Enfin, je veux bien qu'on gère les forêts, etc., mais il y a un moment, il faut de l'argent, et de l'argent qu'on ne peut pas mettre. Voilà, il faut des hommes. J'ai regardé le message du président Macron, qui disait « ce sont nos héros ». Moi, je n'aime pas ce type de communication, ça m'ulcère de dire « ce sont nos héros ». Ces héros-là, ce sont tes héros, ils ne sont pas payés. Ils sont pas payés correctement.
Ils sont payés 8 euros de l'heure en indemnité.
Il manque d'équipement. Il manque d'hommes. Enfin, c'est comme ça que tu traites des héros.
Et il a dit la même chose sur les soignants.
Exactement.
En plus.
Ouais, non, mais cette façon de dire ce sont nos héros et de les maltraiter, c'est deux poids, deux mesures. Et en plus, il faut absolument sortir en France de la logique de la vocation. Tous les métiers qu'on dit à vocation, les pompiers, les professeurs, les soignants.
Les puéricultrices.
Exactement.
C'est notre histoire. L'histoire des pompiers volontaires en France, on a des vrais pompiers, enfin des pompiers professionnels en Marseille et à Paris. À Paris, qui sont rémunérés peut-être pas assez, mais en tout cas rémunérés correctement. Et le reste, l'organisation qui est très ancienne, je crois que
c'est les pompiers volontaires.
Ce sont des pompiers volontaires, c'est-à-dire que les mecs, ils entendent la sirène, où qu'ils soient, à n'importe quel moment, on les a tous vus, ils prennent la bagnole.
Tu peux plus t'appuyer aujourd'hui.
Voilà. Alors c'est la grosse question.
Olivier, merci d'avoir été avec nous. Olivier dit, il faut penser Europe maintenant, parce que la France est un département de l'Europe, et arrêter de penser à nos propres départements. Les Européens viennent nous aider, tant mieux, c'est vrai, parce que là, on en a besoin sur le terrain. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'on est à la ramasse aujourd'hui? Dans un instant, Antoine avec nous, il nous appelle des Bouches-du-Rhône. Les Grandes Gueules, ça continue avec vous, bien sûr, au 32-16, il est 9h20.
Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC,
9h midi,
les Grandes Gueules,
Alain Marchal,
Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre trio de GG, le professeur d'économie Thomas Porcher, Joël Dagosséry, coach de vie, et puis notre ami éducateur Étienne Liby, qui travaille en Seine-Saint-Denis. On parle des soldats européens, quand je dis des soldats du feu européen, des pompiers européens qui viennent nous aider. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un aveu de faiblesse français? On est un peu à la ramasse dans la lutte contre le feu. Antoine est avec nous. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour Alain Marchal.
Comment en réagissez-vous Antoine alors?
Très mal. Parce que ça fait des années et des années que ces pauvres pompiers demandent de l'aide, demandent de matériel et tout, et on les délaisse complètement.
Mmh. Alors, on n'a pas su répondre.
Non, on n'a pas su répondre. On est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. On s'occupe des sujets qu'il ne faut pas s'occuper. Mais là, que la planète est en train de se réchauffer de plus en plus, on leur donne pas les moyens de travailler comme il faut à ses propres pompiers.
Alors vous avez raison, d'autant que Antoine, quand on regarde, on a 12 canadaires. Un Canadair, ça coûte 60 millions d'euros. Hein. Oui. On a 7 Dash. Les Canadair, c'est pas nous qui les fabriquons. Hein. Comme son nom l'indique, ce sont des appareils qui viennent du Canada. Certains de nos appareils ont 25 ans. Donc ça veut dire qu'on a un coût de maintenance aujourd'hui qui est élevé. On n'a pas su moderniser notre flotte. Et puis là, dans l'incendie, on perd des engins de pompiers aussi, hein, dans la lutte contre les flammes, Antoine.
Mais oui, on perd et on risque de perdre aussi des hommes parce qu'ils sont très fatigués. Ils n'en peuvent plus. Hein. Bon, c'est des gens comme nous, hein. C'est les pompiers, c'est des gens comme nous. À un moment donné, ils disent qu'ils sont fatigués, mais c'est normal. Hein. Maintenant, depuis hier, j'entends dire qu'on fait appel aux pompiers étrangers. Pourquoi ? Alors la France, on est en train de se rabaisser. Voilà, la France se rabaisse de plus en plus.
Étienne, la France qui se rabaisse.
Non, mais c'est étrange de voir ça de cette façon-là. Je veux dire, il faut considérer qu'on est une communauté en France. On fait partie de la communauté européenne. On ne dirait pas ça des États-Unis. Pourtant, les États sont très indépendants les uns des autres. Alors, les pompiers sont très organisés aux États-Unis. Ils ont une histoire différente des nôtres. Hein, c'est pas des pompiers volontaires pour le coup. Mais quand il y a le feu, évidemment que les pompiers des États autour viennent. Et oui, c'est tout à fait normal. Est en Europe, nous irons aider nos amis portugais.
Oui, mais jusqu'à présent, on est allé les aider parce qu'on était cinquième puissance mondiale. On n'est pas capable d'affronter un danger extrême.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? Vous êtes en train de jouer à celui qui a la plus grosse aujourd'hui où la terre brûle. C'est absurde. On est 1% de la population mondiale, 0,30% des terres émergées. On n'est pas le Brésil, on n'est pas la Chine. On est un petit pays, un des tout petits pays, même si on a eu une histoire et on a une puissance importante. On doit aujourd'hui considérer que ce qui compte, c'est l'Europe. Sinon, non seulement on sera bouffé culturellement et par les grands pays, mais en plus, si on n'est pas dans l'entraide avec les autres, on va disparaître.
Non, mais c'est pas question de pas avoir une entraide ponctuelle. C'est de se dire simplement que aujourd'hui, non, mais que ce soit positif, que ce qu'on a mis en place en Europe, ça montre que ça fonctionne, mais simplement de voir qu'on est quand même dans des lacunes aujourd'hui, si tu veux. Et qu'en tant que sixième puissance mondiale, malgré les rapports, malgré tout ce qui a été dit, on n'a pas fait le nécessaire simplement sur le terrain. C'est là où je diverge un peu de notre camarade qui était là tout à l'heure en disant on doit penser qu'on est un département européen et pas non plus penser uniquement département Gironde. Mais si, parce qu'à force de penser Europe, ce qui est très bien, on a oublié de penser aussi un peu local et ce qui pouvait se passer dans l'urgence, dans l'immédiat. Joël Dagosséry.
Non, je suis pas sûr qu'on ait pensé Europe et que c'est pour ça qu'on n'a pas assez de matériel et pas assez d'hommes. Je pense que c'est comme dans beaucoup de secteurs dans notre pays, il y a un sous-investissement parce que moi je pense qu'on s'est vu trop longtemps trop beau.
Oui, c'est sûr, mais c'est clair.
On n'a rien anticipé, mais je pense pas que ce soit dû au fait qu'on se dit ah ben on a nos voisins tranquilles. Moi je suis comme Étienne, je trouve ça très 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 bien. J'ai pas envie de critiquer le fait qu'il y ait des pompiers qui viennent nous aider. C'est juste l'inquiétude est juste que de toute façon nos pompiers souffrent même en dehors de ces périodes de sécheresse extrême ou d'incendie.
Thomas Porcher.
Ouais, je suis d'accord avec vous, mais là, le problème de l'Europe, c'est les renforts. C'est-à-dire que c'est pas eux qui arrivent au début, c'est des renforts. C'est-à-dire, une fois qu'on a utilisé l'ensemble de nos moyens, on demande un renfort.
Nos ressources, ouais.
Voilà. Donc, ça peut pas être une solution pérenne. Bien sûr que la solidarité européenne doit être là, quand il y a des cas comme ça. Après, il faut prier pour que ça n'arrive pas en même temps, parce que s'il y a deux pays dans lesquels ça arrive en même temps, bah là, il y aura des problèmes. Mais après, ce n'est qu'un renfort. Et en fait, on savait qu'il y avait depuis le début. Et ça, tout le monde le savait. En fait, c'est un peu comme l'histoire du Titanic. S'il n'y avait pas eu cet iceberg, le Titanic, il aurait pu faire plein d'allers-retours, il n'y avait pas de problème. C'est quand on a eu cet iceberg qu'on s'est rendu compte de toutes les lacunes qu'il y avait dans le Titanic. Et là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel, qui va devenir de moins en moins exceptionnel avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire des feux pour s'en... Finalement, attends, nos pompiers l'avaient déjà dit, on se rend compte qu'il y a des lacunes, il y a des manques de moyens, et c'était pareil avant la pandémie pour l'hôpital. Ah, ils nous l'avaient dit, il a fallu une pandémie pour se rendre compte que l'hôpital est important. C'est ça, moi, qui me dérange, c'est ce manque de vision de long terme et ce manque de préparation face à des situations qui sont exceptionnelles et qui vont devenir de plus en plus exceptionnelles.
Nous sommes avec Ludovic, qui est pompier volontaire, il nous appelle du Morbihan. Bonjour Ludovic.
Bonjour Olivier.
Le Morbihan, où ça a brûlé d'ailleurs, hein, le Morbihan.
Oui, on a eu deux départs de feu pas loin de chez moi, là. On a eu 96 hectares sur un et 60 sur un autre. Et là, on a la forêt de Brocéliande qui est en train de brûler. Là, il y a environ 211 hectares là, qui sont en train de brûler là, depuis hier soir.
Et vous avez suffisamment de moyens d'intervention sur place
Là, je ne suis pas moi sur la forêt de Brocéliande, donc je ne peux pas savoir. Mais en fait, déjà d'une, si on pouvait libérer plus facilement, nous, on est pompiers volontaires, ça serait déjà une grande chose. Parce que les entreprises, ils ne nous lâchent pas facilement. Donc ça, c'est...
Là, il y a le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que vous soyez lâchés justement par vos entreprises.
Ouais, mais c'est pareil, ça met en péril aussi les entreprises.
De quoi vous manquez, en fait, vous qui êtes au quotidien, Ludovic, en tant que pompier, alors, aujourd'hui? Où sont les lacunes?
Personnel et matériel, quoi.
C'est-à-dire matériel, c'est-à-dire, par exemple.
Nos camions, moi, le mien, il a 21 ans.
Donc, il est fatigué?
Bah, il commence, oui. Après, il marche très bien, mais c'est 21 ans, quoi.
Donc, mais excusez-moi, Ludovic, pour bien être clair, donc vous êtes pompier volontaire, ça veut dire que vous bossez par ailleurs dans une boîte.
Oui.
Et que c'est votre engagement personnel et la rémunération est ridicule par rapport à l'engagement que ça suppose. C'est une forme de, on va dire, entre guillemets, de militantisme contre, de militantisme local pour le bien commun de la communauté. On est d'accord?
Ah, bah oui. Bon, par exemple, mercredi, j'ai fait 19h, 5h du matin, j'ai été au boulot après.
D'accord.
Ouais, mais tu vois, voilà. Alors,
voilà, c'est le choix du pompier volontaire.
On a 200. Voilà, Ludovic, vous en êtes l'illustration parfaite. Parfait. 200, on a 256 000 pompiers au total, mais on a 190 000 volontaires. Ouais. Tu vois, donc c'est pareil. Face à des dangers aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser notre doctrine, de repenser notre tactique, de faire. Tu vois, on est les spécialistes des états généraux, des Grenelles, de je ne sais pas quoi. Donc,
il y a des pompiers professionnels à Paris, à Marseille. Pourquoi il n'y en aurait pas au moins un par région? Des pompiers professionnels,
c'est qu'ils soient mobiles. Je sais pas, moi, je suis pas spécialiste. Je me fie simplement au rapport et tu vois ce que nous dit Ludovic.
Ah oui,
quoi.
Tout à fait.
Et tiens, on a Stéphane aussi qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Stéphane. Vous êtes sapeur-pompier?
Professionnel, oui, tout à
professionnel,
fait.
Contrairement à Ludovic.
Oui,
aujourd'hui.
Pour réajuster un petit peu ce que disait votre. En fait, en France, il y a trois modes de. Il y a des sapeurs-pompiers volontaires, des sapeurs-pompiers militaires, donc situés principalement sur Marseille et Paris, dans les bases de sécurité civile. Oui. Et après, il y a des sapeurs-pompiers professionnels dans chaque département, quand même. D'accord? Oui. On est 40 000 en France. Hein.
Ouais.
C'est le complément. C'est pas juste des pompiers de Paris ou de Marseille dont c'est le métier.
Mais Ludovic pointait par exemple la vétusté ou l'usure du matériel aujourd'hui. Est-ce que vous êtes confronté, vous, au manque de moyens, au manque de matériel? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autrement dans cette situation que de faire appel à nos voisins européens, quoi.
Alors, sur des événements exceptionnels comme ça, qui est un appel avec, on va dire, avec les autres pays européens, je trouve ça quand même normal parce que c'est quand même pas. Enfin, j'espère que ça ne sera pas tous les ans. Après, sur la vétusté du matériel, étant donné que nous, on est géré par département, en fait, puisqu'on est fonctionnaires publics territoriaux, c'est assez variable d'un département à un autre, en fait. Donc, tous ces investissements-là, nous, on n'est pas comme des policiers en étant fonctionnaires d'État.
Oui.
Et c'est voilà. Donc, suivant les départements, ça peut être assez variable. Et les effectifs aussi, suivant les départements, ils sont assez variables aussi, quoi. Suivant les volontés politiques derrière et suivant les moyens du département, beaucoup.
Vous, par exemple, vous ne pouviez pas être mobilisé sur la Gironde, Stéphane?
Alors, le problème qu'on a, c'est que, étant donné que surtout sur les périodes estivales où on demande beaucoup de moyens, c'est que les effectifs sont déjà au minimum, qu'on n'est pas libéré, nous, dont c'est le travail, par nos employeurs que sont les SDIS, pour pouvoir aller prêter main forte. Moi, j'aurais dû poser des congés pour pouvoir partir faire mon travail dans un département.
C'est délirant, ça.
C'est délirant.
Que vous nous racontez.
Attendez, Stéphane, vous pouvez reprendre, qu'on soit sûr de bien avoir compris. C'est-à-dire que si vous deviez intervenir en Gironde, il faudrait que vous posiez des congés au niveau du département des Hautes-Pyrénées,
du coup.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que je dois poser des congés ou avoir de la chance que les effectifs ne soient pas au minimum pour pouvoir partir, en fait. Parce que sinon, je ne suis pas libéré. C'est le cas de beaucoup de départements. Et vous avez vu hier, les syndicats nationaux de sapeurs-pompiers ont envoyé une lettre au ministre de l'Intérieur, justement, qui lui demandait des efforts aux employeurs privés.
Oui.
Parce que, en fait, la plupart des départements ne sont pas en capacité de nous envoyer faire notre travail ailleurs. Et on demande une aide européenne en parallèle, quoi. Voilà.
Donc il y a un dysfonctionnement quand même là.
Pardon, mais qu'est-ce que c'est con? Voilà. Je veux dire, donc, on peut faire venir du Portugal, de la Roumanie. Par contre, du département d'à côté, oula, faut poser un congé. Ouais. Non mais écoute. Mais tu vois bien
la France, madame, la France.
Il y a quand même un truc qui tombe par rond, quoi.
Allez-y, Stéphane, quoi.
En plus, on n'est pas en capacité de poser des congés, puisque les congés, ils sont posés 3 ou 6 mois à l'avance.
Ah, bah, bien sûr, normal.
Et nos collègues sont déjà en vacances. Donc, nous, on assure les missions courantes du département, en définitive.
Non, mais. Donc, Stéphane, les bras m'en tombent de ce que vous êtes en train de dire. Et là, on touche du doigt encore, si tu veux, la machine française dans tout ce qu'elle peut avoir d'absurde.
De la même manière que. Je sais pas quel poids, par exemple, quel poids ont les pompiers dans le fait de conseiller, par exemple, à des propriétaires privés comment ils doivent organiser leur forêt, parce que quand même les pompiers savent comment fonctionne
les pompiers, c'est le département, ça.
Il y a des organismes type Office national des forêts qui sont en capacité de le faire, donc c'est le travail.
Mais pourquoi par exemple là aujourd'hui on entend des pompiers en Gironde qui disent c'est pas possible parce que il y a des seaux de feu qui y a pas de trous dans les forêts et ça empêche, ça permet au feu de se propager. Il y a pas eu de coupe claire, donc il y a quand même un problème de gestion quand même.
Merci Stéphane et merci à Ludovic d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Après, je pose simplement une question. Vous savez qu'il y avait eu la polémique, on en parlait hier, sur les pompiers non vaccinés qui ne sont pas intégrés, réintégrés comme les soignants. Alors je crois que c'est même pas.
C'est rien.
C'est en dessous d'1% de l'effectif. Ouais. Mais simplement, est-ce que les pompiers qui viennent d'Allemagne, de Pologne, de Roumanie, d'Autriche, grecs, suédois, est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas?
C'est très français, la
Pologne. Non, mais tu.
Cette histoire de vaccin, maintenant, c'est fini.
Mais non, c'est pas fini, puisque d'ailleurs, les pompiers volontaires, on en avait un hier.
Ça devrait être fini.
Il disait, je voudrais intervenir sur le feu, pompier volontaire. Il dit, je ne peux pas, je suis pas vacciné, quoi. Voilà.
Je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'on peut transmettre le virus même en étant vacciné. Les courbes sont plutôt bonnes sur les contaminations. Cette histoire devrait être fini, quoi.
Voilà. On a posé la question, est-ce que la France aujourd'hui elle est à la ramasse dans cette histoire des incendies? C'est quand même un oui qui ressort à 66%. Voilà pour ce que vous ressentez. Allez, dans un instant, le monde de Macron avec un ministre brésilien, ministre de l'économie, qui nous insulte aussi et qui nous dit gentiment d'aller nous faire foutre, à nous les Français. Ça continue, tout va bien, à tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Notre prochain grand sujet de discussion tout à l'heure à 10h et qu'on aura avec vous d'ailleurs concerne cet arrêté du journal officiel du début de semaine. À partir de la fin du mois d'août, des gens pourront travailler en crèche alors qu'ils n'ont pas été formés sur cette tranche d'âge-là. Ils auront 120 heures de formation. En fait, c'est pour faire face à la pénurie. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que... ça met nos enfants en danger, c'est peut-être inquiétant. 32-16 pour en parler avec les Grandes Gueules. En attendant, et il est 10h moins le quart, on y va pour le monde de Macron.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
On s'est fait un pote encore, nous les Français, au Brésil. On s'est fait un copain avec le ministre de l'économie parce que vous savez que la France, par la voix du président Macron, s'est dit opposée à la ratification de l'accord commercial qu'on appelle Mercosur, c'est-à-dire Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. En fait, pour ratifier l'accord, il faut que les pays signataires montrent qu'ils sont aussi solides sur leurs engagements, et notamment leurs engagements en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Et la France doute de l'engagement du Brésil, en particulier avec ce qui se passe en Amazonie. Réponse du ministre brésilien de l'économie.
Un ministre français a dit une fois « Vous brûlez la forêt ». Et j'ai répondu « Vous brûlez Notre-Dame ». Puis j'ai dit « Vous ne brûlez pas Notre-Dame, mais c'est un bâtiment et vous ne pouvez pas l'arrêter, il a pris feu ». Nous avons une zone qui est plus grande que l'Europe et vous continuez à nous critiquer. Notre commerce avec vous était de 2 milliards de dollars au début du siècle en l'an 2000 et avec la Chine il était de 2 milliards aussi. Aujourd'hui, nous échangeons avec vous 7 milliards et avec la Chine 120 milliards. Vous devenez insignifiant pour nous. Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer vous faire foutre.
Voilà comment parle le ministre brésilien de l'économie, Thomas Porcher. Ah, et il met en balance, dans la balance les chiffres,
et voilà,
ce qui est factuel.
Ben oui,
120 milliards, 2 milliards.
Non mais là, c'est... bon, J'ai aucune sympathie pour le Bolsonaro et son gouvernement, je le dis tout de suite. Mais là, on voit bien ce qui se passe en fait au niveau mondial, d'un point de vue économique. Et que les émergents, maintenant, ils veulent plus se laisser faire. Le Brésil est un pays émergent, il fait du commerce avec un autre pays émergent, et c'est fini maintenant le G7 de ces vieux pays qui dominent le monde et qui décident en fait comment doit s'organiser le monde, comme ils l'ont fait pendant très longtemps à l'OMC. Aujourd'hui, les émergents, ils disent nous on fait ce qu'on veut. Voilà. Et je veux dire, on pourrait avoir le même discours là en Chine, on pourrait avoir le même discours en Inde ou dans d'autres pays.
Ils l'ont, mais ils sont plus polis. Hein.
Voilà. Voilà. Donc maintenant, les pays émergents ne se laissent plus faire. C'est... Alors là, il y a une très mauvaise manière, mais c'est une façon de dire la France n'a pas de leçon de morale à nous donner. On s'organise comme on veut.
C'est là voilà. qu'on acte la fin du néocolonialisme et la fin du colonialisme.
De ces petits pays
on
riches.
On acte le fait que chacun reprend une place en fonction de son nombre d'habitants. Je veux dire, les Chinois aujourd'hui, qui pendant des années, par exemple, ont été dans cette espèce d'humilité qui nous faisait si plaisir à se courber en deux et à être gentils avec nous, aujourd'hui ont commencé à tourner un peu la Kazakh.
C'est pas comme ça que tu dialogues maintenant, non, mais que tu instaures de nouvelles relations.
Les leçons de morale.
C'est pas en disant allez vous faire foutre.
Les Français sont vus partout quand même.
Comme des donneurs
comme de leçons. Comme des néocolonialistes qui donnent des leçons de morale, puisque c'est eux qui sont les plus grands, les plus forts. C'est eux qui savent l'éducation, c'est eux qui savent la culture, c'est eux qui savent tout. Donc partout, effectivement, ils sont pas très très estimés, il faut dire la réalité, même si la France est très estimée en tant que pays culturel, etc. On a un déficit d'amour. Et il y a quelque chose qui s'est joué dans notre façon de se penser, qui aujourd'hui, heureusement, les jeunes qui sont français, qui vont travailler à l'étranger, sont plus du tout dans cet esprit. Mais c'est quelque chose qu'on doit regagner. Et c'est vrai que les pays émergents, donc qui sont devenus puissants aujourd'hui, nous le disent. Voilà, c'est fini. L'époque est finie. Vous êtes ce que vous êtes, et il va falloir faire avec nous. Et c'est nous qui dominons le monde. Voilà.
Oui, c'est sûr que le temps de l'arrogance est terminé. Depuis longtemps, et peut-être qu'on n'a pas senti le vent tourner, puisqu'apparemment, on continue de donner des leçons à tout le monde. Ceci dit, je trouve sa façon de parler assez déplorable. Ça manque aussi de diplomatie, parce que effectivement, il y a la balance économique, mais il y a pas que ça. Hein. Il faut pas toujours penser qu'argent. Et je crois que le président Macron est en droit aussi de pouvoir s'exprimer dessus, parce que je rappelle que, pardon, la forêt amazonienne, c'est aussi la Guyane. C'est pas que le Brésil. Et donc la Guyane, c'est la France, jusqu'à preuve du contraire. Donc je crois que il a la légitimité, en tout cas, pour. Alors comme sur la forme.
Oui, t'as raison. On peut aussi leur dire qu'ils font n'importe quoi avec la forêt amazonienne.
Mais sur le fond, je crois qu'il a la totale légitimité pour s'exprimer sur ce qui se passe dans la forêt amazonienne. Voilà.
Dans le monde de Macron et dans l'actualité, quand même un mot sur ce monsieur dont on a tous vu les dessins en souriant. Dont on a tous lu les aventures du petit Nicolas, c'est la mort de celui qu'on appelait Sempé, tout simplement. Sempé, qui parlait de sa vie et de ses héros et de ses dessins.
Je conserve un assez bon souvenir de mes années scolaires. Je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté. Alors, j'aime bien dessiner les enfants pour ça. C'est une sorte d'obligation que j'ai. Je ne peux dessiner que des gens pour lesquels j'ai une sorte de sympathie. Sans ça, je... Ça va pas. Et puis c'est un autre métier, c'est un autre travail. Et c'est une œuvre de censeur, ce que surtout je ne voudrais pas être, parce que pour moi, il n'y a rien de plus bourdingue et complètement démodé.
Et Jean-Jacques Sempé qui est décédé à 89 ans. Le petit Nicolas, c'est tout le monde connaît les adaptations au cinéma, et c'est 15 millions aussi d'albums vendus du petit Nicolas. C'est un succès phénoménal. C'était sorti en 1960. Le petit Nicolas, c'est le monde de la cour de récré, l'enfance, les copains, mais c'est surtout aussi les disputes familiales, c'est les rapports des adultes, c'est un père dont on voit les difficultés aussi au travail. Sempé, c'était une drôle de vie, j'ai relu vite fait. Il dit, voilà, ma vie a été lugubre et même un peu tragique. Enfant naturel, un père adoptif qui était représentant de commerce, qui allait vendre dans les épiceries des villes natales des boîtes de pâté, de thon, de sardines, d'anchois, des bocaux cornichons. Et quand il faisait un peu plus d'argent, parce qu'à l'époque les gens étaient payés en liquide, devine où il s'arrêtait en revenant de la tournée. Oui. Et ouais, il s'arrêtait au bistrot, et lorsqu'il rentrait à la maison, et ben c'était les roustes ou c'était les scènes avec la maman. Il casse tout, les assiettes, les verres. Et il dit, on faisait des crises de nerfs, on les voyait aussi faire des crises de nerfs. Donc le dessin, son coup de crayon a été pour lui aussi une échappatoire, Étienne.
C'est surtout, c'est une génération en fait, c'est un peu comme le stand-up en fait. C'est une génération où le gag, où il n'y a pas que le gag dans le dessin. C'est-à-dire que un petit peu comme une génération d'humoristes, je pense à Bedos, parce que Bedos n'avait pas que le gag, ou le Luron même, n'avait pas que le gag. C'était pas une suite de gags à l'américaine. Là maintenant, on est devenu complètement américain, et dans le dessin de dessin de presse d'ailleurs, et dans le stand-up. C'est-à-dire qu'il faut faire des gags qui se suivent, et à la limite, il en faut une toutes les 7 secondes, parce que sinon le public s'emmerde. Et là, lui, il fait pas des gags. C'est, il nous met dans une situation, dans un climat, et il nous fait réfléchir à ce que nous sommes nous-mêmes. C'est pour ça que ces personnages sont toujours écrasés par l'environnement. Ces personnages font 0,5 centimètre, et la case fait 20 centimètres, et en fait, ils sont écrasés partout, par la forêt, par l'église, par la violence, et en fait, c'est, il nous dit qui nous sommes, nous, aujourd'hui, écrasés que nous sommes par le monde qui nous entoure. Et puis, c'est plus une œuvre philosophique d'un penseur qu'une œuvre proprement d'un humoriste.
Ouais, et il avait fait la une du New Yorker. Hein, il dessinait pour le New Yorker, sans paix, ce qui était à l'époque complètement incroyable. Et là, t'as toute une nouvelle génération qui a redécouvert le petit Nicolas grâce au film. Tu connaissais les dessins de sans paix ou pas du tout?
Si. Complètement,
mais
avec le petit Nicolas, beaucoup. J'avais deux livres, Les Malheurs de Sophie et Le Petit Nicolas, que je relisais en boucle, l'un après l'autre à chaque fois, et que je gardais sous mon coussin. Puisque, oui, parce que les parents, vous savez, éteignaient la lumière, etc. Alors, dès qu'elle partait, ma mère, je rallumais, puis je regardais, j'ouvrais le livre. Et donc, vraiment, c'est vraiment des souvenirs, surtout quand j'avais des parents divorcés. Et vraiment, ces deux livres, je sais qu'ils m'ont accompagnée quand c'était un peu difficile.
Ah oui, tu t'es réfugiée dans la lecture.
Complètement, mais je les ai relus, je ne sais pas combien de fois. Et puis, avec les déménagements successifs, je les ai perdus. Et ma fille, quand elle a grandi, je lui ai dit, il faut absolument que tu lises ça et tout. Alors, je vais acheter Le Petit Nicolas. Rien du tout. Mais elle me l'a lu deux secondes, elle me l'a posé, elle me l'a balancé. Elle est dans ses mangas, etc. Et j'étais tellement. Mais c'est bizarre, mais ça m'a fait tellement de mal qu'elle ne l'ait pas aimé.
Ça t'a rendu triste.
Ah, mais ça m'a rendu triste. Je lui regardais les dessins, Clotaire. Enfin, moi, j'étais dans les trucs et tout. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment une époque qui part avec presque l'école comme on l'aimait, en fait. Avec,
un peu nostalgique
voilà,
aussi.
Avec des petits gamins chahutants, mais quand même bon enfant, voilà.
Monsieur Thomas Porcher,
non mais
tu as lu ou pas? Non, franchement, Le Petit Nicolas ou les dessins de Sampé ou pas?
En fait, ouais.
Ça passait comme ça.
Voilà, mais qu'on l'ait lu complètement ou comme la fille de Joël, il est passé dans les mains de tous les enfants. Ouais. En fait, que soit par l'instit, soit par les pas. À un moment, enfin moi, ma mère me l'a acheté. Il est dans la bibliothèque. Il est passé entre les mains de tous les enfants, ce livre. C'est impressionnant. Hein. Donc qu'on l'ait lu ou pas, qu'on l'ait feuilleté ou qu'on l'ait lu complètement ou qu'on l'ait lu plusieurs fois. Il était là. Donc c'est quelque chose de, voilà, Le Petit Nicolas, tout le monde connaît. Et même il y a des gens, enfin moi je me souviens même que parfois en début de thèse, des gens mettaient une petite citation du Petit Nicolas, enfin je sais pas. Donc c'est quelque chose, voilà, de mythique.
Parce qu'il y avait le génie de Sampé, enfin son génie, son talent. Et puis il y avait aussi René Goscinny qui était avec lui, René Goscinny, le scénariste
c'est cette même génération.
D'Astérix, de Lucky Luke, d'Isno Good, de Gottlieb.
C'est cette même génération.
C'est toujours pareil, c'est la rencontre d'un crayon avec un scénariste. Parce que Goscinny, c'était le trait d'esprit.
Et si tu veux,
c'était les aventures, c'était lui qui les signait.
Tous ces gens qui sont nés dans les années 20, je pense aussi à des gens comme Ciné, par exemple, qui étaient tout à fait, mais c'est aussi la génération des Cavana, etc. C'est aussi une génération qui veut se démarquer de l'humour un peu agressif, toujours un peu machiste, etc., de ce qui précède, et qui fait de la dérision et de l'autodérision, c'est-à-dire qui se moque en permanence et qui devient un dessin. Et un dessin politique, en fait. Il devient un dessin politique, même si le mot politique est à prendre au sens large du terme. Ça devient un vrai dessin engagé, un vrai dessin politique qui critique notre société et pas seulement les rapports monsieur, madame, la maîtresse, l'amant, etc. Ouais. Comme c'était le cas avant.
Puis c'était des gens qui avaient quand même des vies puisqu'ils ont connu la Seconde Guerre mondiale. Et alors, ils trouvent un emploi de livreur de bicyclette pendant un an. Ensuite, en 1950, il devient représentant en dentifrice en poudre. Ouais. Je sais pas si tu vois t'imagines, tu démarches. Oui, c'est ça, c'est à l'ancienne. T'imagines la force de persuasion. Bonjour, monsieur, dame. Voilà, je vais vous vendre du dentifrice en poudre. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Ensuite, il a été courtier en vin et c'est à ce moment-là, en 1950, qu'il commence sa carrière de dessinateur dans la presse et qui s'inspire de son vécu en tant qu'enfant et son vécu ensuite ce que lui a amené la vie. Voilà, petit hommage à Sampé, on voulait quand même en parler dans les GG, dans les grandes gueules. Dans un instant avec Joël Dagosséry, avec Thomas Porcher et Étienne Yebig, recrutement sans formation dans les crèches, l'arrêté est paru au Journal officiel. Est-ce que c'est inquiétant? 32-16 pour venir en parler avec les GG. On va en discuter avec vous, bien sûr. Il est 10h05.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.